Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Deux heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info, c'est avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une championne olympique de judo qui accuse son compagnon et entraîneur de l'avoir roué de coups. J'ai frôlé la mort, dit Margot Pino. Vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal également, le Covid et l'inquiétude de retour dans les hôpitaux. Et puis on ira en Belgique où la carte d'identité sera bientôt asexuée.
Et juste après le journal, comme tous les jours, de débats, le Covid. Cette question, faut-il rendre la vaccination obligatoire? Après l'Autriche, l'Allemagne s'apprête à sauter le pas. Et puis à 12h50, effectivement, on reviendra sur la colère d'Éric Zemmour. Hier, après son 20h sur TF1, a-t-il raison de s'en prendre aux journalistes? Fait-il du Donald Trump? Michel Cotta sera l'invité d'RTL Midi.
Notre question du jour sur RTL.fr, elle concerne le Covid. Faut-il rendre la vaccination obligatoire? Oui, vous dites oui, assez massivement, à 63%. Notre météo du jour avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
C'est pluvieux sur l'ensemble du pays.
Eh oui, la perturbation se décale sur les régions de l'Est et gagne la Méditerranée cet après-midi. À l'arrière, donc sur l'Ouest, un ciel de traîne entre nuages, éclaircies, averses avec du vent, de la neige en moyenne montagne et des températures qui remontent, sauf sur la région Rhône-Alpes, entre la région Rhône-Alpes et le Nord-Est, ça reste frais, sous les 10 degrés, de 10 à 13 ailleurs, jusqu'à 15 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord, donc, ce coup de gueule glaçant, celui de Margot Pino, championne olympique de judo. Elle a porté plainte ce week-end contre son compagnon et entraîneur, plainte pour violence volontaire, mais l'homme a été relaxé.
J'ai des multiples contusions à la tête, des trous dans la tête, je me suis fait arracher les cheveux à plusieurs reprises. Enfin, j'ai un œil au beurre noir, l'autre œil cogné, j'ai une fracture du nez. J'ai l'habitude du combat, mais là j'ai vraiment cru mourir. Je me suis fait cogner à coups de poing, il m'a pris la tête, il a cogné contre le sol, il a essayé de m'étrangler. Mais j'ai réussi à me dégager de lui parce que je me suis dit, bah là, si tu sors pas de chez toi, t'es morte.
Et aujourd'hui, vous êtes choqué aussi par la décision des juges. C'est-à-dire, que faut-il faire pour arriver à condamner un agresseur?
Il aurait fallu que j'y passe. Sincèrement, aujourd'hui, je comprends le nombre de femmes qui meurent sous les coups. Parce qu'en fait, la justice française, elle est pas bonne, clairement. Là, il y a un vrai problème. Et moi, heureusement que je suis solide et que j'ai pu encaisser, que j'ai un corps d'athlète. Non, je pense que je serais fini, quoi. Je me demande ce qui a fait qu'il s'en sort comme ça. Je me suis peut-être mal défendu. J'ai peut-être pas le bon avocat. J'ai peut-être, en tout cas, c'était peut-être mieux ficelé de son côté. Et voilà, je comprends que les femmes n'osent pas porter plainte parce qu'au final, ça mène à rien.
Le témoignage de Margot Pino, championne olympique de judo, recueillie pour RTL par Jean-Michel Rascol. Bonjour Anne Le Hénaff.
Bonjour.
Margot Pino a déposé plainte ce week-end, donc après des faits qu'elle évoque qui se seraient déroulés ce week-end. Son compagnon et entraîneur a été jugé hier soir en comparution immédiate et lui livre une toute autre version.
Oui, à la barre du tribunal de Bobigny, tard hier soir, Alain Schmitt a parlé d'une bagarre, d'une dispute qui a dégénéré de façon très violente. Des deux côtés, son avocat, Maître Malik Belloul.
Il y a la parole de l'un et la parole de l'autre. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments dans ce dossier pour établir l'ordre des choses. Parce qu'elle avait face à elle aussi, la justice, deux personnes qui étaient aussi blessées l'une que l'autre, je parle d'un point de vue physique. Monsieur Schmitt, il avait des marques au visage qui étaient beaucoup plus importantes que celles de Madame Pino à l'audience. C'est-à-dire que Monsieur Schmitt a toujours des ecchymoses, un œil au beurre noir qui lui va jusqu'à l'oreille, gonflé, avec des griffures sur le front un peu partout. Cet homme qui n'a jamais levé la main sur personne. On se demande pourquoi il déciderait à 5 heures d'un vol vers une nouvelle vie, alors qu'il vient d'appeler un VTC parce qu'il sent que ça ne va pas du tout avec Madame Pino, il déciderait de commettre des violences d'une gravité inouïe telles qu'elles sont décrites par Madame Pino.
Car les projets de l'entraîneur de s'envoler vers Israël pour aller entraîner l'équipe féminine nationale risquent d'être un peu contrariés. Le parquet, l'accusation donc qui avait demandé un an de prison avec sursis, vient d'annoncer à RTL qu'il allait faire appel de ce jugement. Il y aura donc un nouveau procès.
Merci beaucoup. Beaucoup Anne Le Hénaff du service police-justice d'RTL.
Évidemment, c'est important d'expliquer qu'il y aura une suite possible judiciaire. Il y aura d'ailleurs une suite judiciaire avec cet appel qui a été fait par le parquet. Merci Anne. Le Covid est le chef du service réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris qui s'inquiète aujourd'hui.
Depuis ce week-end, le professeur Constantin est formel. Le nombre de malades flambe, écoutez.
Sur la pitié, en 5 jours, on a pris 20 patients en réanimation. Jusqu'à il y a 2 semaines, on prenait un patient par semaine sur toute la pitié. Là, on a une augmentation qui est inquiétante. On a déjà rempli les lits qui étaient dédiés Covid, c'est-à-dire à peu près 50% des réanimations qui font des patients Covid. Et ça pousse à la porte, donc on va devoir augmenter le nombre de lits destinés à ces patients. La situation de la pitié n'est pas du tout isolée et on est sollicité pour prendre des patients du Nord-Paris, de l'Est, ce qui est bien le témoin d'une montée globale des taux d'occupation des lits en réanimation.
Le professeur Jean-Michel Constantin, joint pour RTL par Odile Pouget. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
On est bien d'accord, hein, on est encore loin de ce qu'on a pu vivre lors des premières vagues.
Ah oui, hein, il suffit de regarder les chiffres d'hier soir. 10 300 patients Covid hospitalisés dans toute la France. En comparaison, lors des 3 premières vagues, on était à plus de 30 000, soit 3 fois plus de malades. Même chose du côté des réanimations. 1 800 patients hospitalisés hier soir, contre 6 000 lors de la 3e vague du printemps dernier et même 7 000 en première vague. On ne peut donc pas encore parler de tension sur l'hôpital. Mais ce qui inquiète les professionnels de santé, c'est qu'il y a ces derniers jours, c'est vrai, une accélération des admissions. Depuis début novembre, les entrées à l'hôpital comme en soins critiques augmentaient très lentement, mais on constate bien une nette accélération depuis une semaine. Vous venez d'entendre ce témoignage du professeur Constantin en Île-de-France, région où effectivement on est passé de 300 personnes en réanimation mercredi dernier à 400 hier soir. D'autres régions font bien le même constat, comme par exemple l'Occitanie, où les admissions en réanimation ont augmenté de plus de 50% sur une semaine.
Agathe Landais, merci à vous pour ces explications. Et face à cette 5e vague, l'Allemagne, elle envisage de rendre la vaccination obligatoire. Le futur chancelier l'a dit hier, hein, il est pour une obligation, on le rappelle, déjà votée en Autriche, mais aussi en Grèce pour les plus de 60 ans.
Faut-il aller jusque-là en France? Le PS notamment est pour. On sera en débat dans une dizaine de minutes avec Patrick Kanner, qui est le chef de file des sénateurs socialistes.
Les militants LRE ont commencé à voter pour élire leur candidat pour la présidentielle. Début des premiers tours en ligne ce matin à 8h. La clôture de ce premier tour, ce sera demain à 14h. Et à midi, 25,4% des quelques 140 000 inscrits avaient déjà fait leur choix, sur 4 donc. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
C'est malgré tout très compliqué de faire des pronostics.
Oui, je dirais même que c'est tout simplement impossible sur le nom du gagnant et même sur l'affiche du second tour qu'on connaîtra demain. Dans ce congrès, pas de sondage sur les électeurs. En même temps, le corps électoral est si petit qu'on ne sait pas grand-chose de lui. 140 000 adhérents, 60 qui ont pris leur carte à la dernière minute juste pour pouvoir voter. Mais qui va en profiter? C'est là la clé de l'élection. Toujours est-il que chacun a ses avantages et ses chances de l'emporter. Xavier Bertrand, car il est le mieux placé face à Emmanuel Macron. Michel Barnier pour sa stature internationale et sa fidélité au parti. Valérie Pécresse pour sa fermeté. Et en plus, c'est une femme, un argument qui pourrait compter selon ses équipes. Et puis Éric Ciotti, pour beaucoup, il a crevé l'écran pendant les débats. Le candidat de la droite, c'est lui. Et puis Philippe Juvin, lui, ne devrait pas se qualifier, sauf grosse surprise. Mais il n'a pas démérité pendant les débats, vous le voyez, le suspense est insoutenable. Fin du feuilleton avant le second tour, demain à 14h30.
Et on suivra bien sûr ça avec vous et tout le service politique d'RTL. Thomas Després, les ventes de voitures neuves, elles sont toujours au plus bas. Moins 3,21% au mois de novembre. Moins de 122 000 voitures ont été immatriculées. Et c'est moins que l'an dernier en plein confinement et c'est même le pire mois de novembre jamais enregistré. En cause, la pénurie de semi-conducteurs qui freinent la production et donc les immatriculations. Et parmi les victimes de cette crise auto, il y a les salariés de la fonderie SAM de Viviez dans l'Aveyron. Renault a promis hier un soutien financier et un accompagnement pour chacun des 350 salariés dans leur reconversion, mais eux espèrent plus. Ils manifestent d'ailleurs en ce moment même, Patrick Tégéraud.
Oui, ici on a accueilli une vingtaine d'autobus qui ont déposé des centaines de militants CGT devenus de toute l'Occitanie et même d'au-delà. 6000 personnes au total selon les organisateurs et les prises de parole se succèdent et chacun dénonce une fausse politique de relocalisation du gouvernement et une vraie politique de délocalisation dont la SAM est la victime symbolique. Sous une pluie abondante et glacée, Laurent, 7 ans de SAM, tente de garder le moral malgré tout.
Bah oui, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent. C'est toujours réconfortant. Ouais.
Vous gardez espoir?
Oui, on continue quand même. Comme ils disent, on lâche rien. Mais espoir quand même pas mal amoindri, oui.
Et dans la foule, il y a Gilles. Il est venu de Millau pour soutenir ses camarades de la SAM.
Pour défendre la SAM, pour défendre le bassin. Parce que la SAM qui ferme, c'est tout le bassin qui risque de fermer.
Oui.
Tout simplement, déjà qu'on est des régions assez déshéritées. Si en plus on perd le peu que, le, le peu qu'on a, le peu qu'il nous reste, qu'est-ce qu'il nous restera?
Oui, la SAM est le dernier bastion industriel, la dernière grosse boîte ici autour de Decazeville. Alors on redoute la désertification. Perdre 330 emplois de la SAM, c'est aussi faire disparaître un millier d'emplois induits dans un bassin d'emplois qui a déjà perdu 19 000 habitants en 35 ans.
Patrick Tégéraud, en direct de l'Aveyron pour RTL. Et puis voilà sans doute une initiative qui fera réagir les auditeurs. La Belgique, figurez-vous, a décidé de passer à la carte d'identité asexuée. Caroline N., le genre va purement et simplement disparaître.
Sur une carte d'identité belge, tout comme sa voisine française, se trouve la mention sexe M ou sexe F. Le mot et les deux lettres vont donc disparaître. Une décision bien accueillie par les Belges. David, Benjamin et Julie y voient une avancée.
Qu'on soit homme, femme ou non-genré, sur la carte d'identité, ça ne change rien. Le but, c'est de savoir qui on est et comment nous retrouver, c'est d'avoir un nom, un prénom.
Je trouve que c'est une bonne nouvelle dans les démarches d'inclusion et d'inclusivité qu'il y a ces dernières années.
Ce serait plutôt un pas en avant et un signe un peu de modernité et de prise en compte de l'individu.
Le changement concerne surtout les personnes non-binaires, intersexes ou transgenres qui ne se reconnaissent pas dans une case féminin ou masculin, mais cela reste symbolique. En effet, le F et le M existeront toujours sur les registres nationaux. Cette nouvelle carte n'arrivera pas avant au moins un an. Elle doit encore être adoptée par le Parlement. Avant cela, quelques détails à régler, comme par exemple l'impact sur les voyages, les contrôles aux aéroports.
Caroline N. à Bruxelles. Pour RTL.
Voilà un beau sujet. Qu'en pensez-vous? Bonne idée ou pas? La France devrait-elle suivre? Vous pourrez évidemment réagir dès 13h au 32-10. En attendant notre premier débat, faut-il passer à la vaccination obligatoire? On va être avec Patrick Caner.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
On ne peut pas regarder sans rien faire. Et nous connaissons la cause de la cinquième vague. Si notre taux de vaccination était plus haut, la situation aurait été différente. Et c'est pour cela que l'on va s'en occuper.
Après l'Autriche, c'est donc au tour de l'Allemagne de s'apprêter à rendre officielle, obligatoire, pardon, la vaccination contre le Covid. Olaf Scholz, le futur chancelier, est pour. C'est lui qu'on vient d'entendre à l'instant. Alors faut-il en faire autant en France? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Patrick Caner.
Bonjour.
Vous êtes chef de file des sénateurs socialistes. Ça fait des mois que vous le réclamez, hein, cette vaccination obligatoire. Très concrètement, qu'est-ce que ça changerait? On a déjà un pass sanitaire en France.
Vous savez, si j'étais germaniste, et je le suis un peu, je dirais « es ist recht », il a raison, Olaf Scholz. Et aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de Français, une majorité de Français se sont vaccinés. 51 millions d'entre eux, d'entre nous, ont déjà eu leurs deux doses. Mais voilà, il nous reste 6 millions de Français qui aujourd'hui ont décidé, ou de fait, ou volontairement, de ne pas être vaccinés. C'est ce que j'ai appelé, à d'autres moments, une bombe à retardement sanitaire. 6 millions de Français, c'est 10% de la population éligible au vaccin. C'est elle qui, aujourd'hui, est la plus menacée sur le plan sanitaire. C'est elle qui, aujourd'hui, occupe le plus de lits de Covid en hospitalisation. Et je dis simplement au gouvernement, mais qui s'obstine à m'opposer, à nous opposer, puisque nous demandons depuis le mois de juillet un refus systématique, encore une fois, d'ailleurs, mardi dernier, dans une conférence visio avec le Premier ministre Jean Castex. Il m'a répondu très gentiment, Monsieur Caner, je vous aime bien, mais il n'y aura pas de projet de loi de vaccination obligatoire.
Pourquoi il s'y oppose?
Je crois qu'il y a un manque de courage. C'est vrai que c'est pas très populaire, disons-le simplement, et qu'on a peut-être peur de réactions. Mais quand on fait de la politique, il faut faire des choix. Et le choix, en l'occurrence, ça doit être celui de l'anticipation. On peut pas prolonger éternellement le pass sanitaire au coup par coup à chaque nouvelle vague, et on est déjà à la cinquième. Il nous faut de la clarté, et je crois que le pass sanitaire, c'est aujourd'hui une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. C'est devenu de plus en plus d'ailleurs.
Mais oui, c'est pour ça que du coup, on ne comprend pas bien pourquoi il faudrait.
Est-ce qu'il y aurait des raisons moins avouables, Monsieur Caner? Si la vaccination, par exemple, est obligatoire, la responsabilité de l'État est engagée s'il y a des effets indésirables?
Je n'ose pas imaginer cela.
Mais
en tout cas,
question,
moi j'appelle à la responsabilité. En tout cas, rendre la vaccination obligatoire, c'est de considérer finalement qu'il y a une solidarité entre tous les Français, entre celles et ceux qui finalement aujourd'hui ont accepté de rentrer dans la dynamique voulue par le président de la République le 12 juillet dernier, et à juste titre. Quand on a dit pass sanitaire, il y a eu un mouvement de vaccination, mais il reste les dernières marches. Et je reprends l'expression de Jean Castex toujours à cette même rencontre où il nous disait, mais
les dernières marches sont toujours les plus difficiles. Bah oui, et c'est parce qu'elles sont les plus difficiles qu'il faut avoir le plus de volontarisme par rapport à cette situation qui va devenir assez explosive. Moi, je connais, comme vous, je suppose, plein de Français qui me disent bah oui, la troisième dose, ok, mais le pass sanitaire, on va nous l'enlever si on la fait pas. Mais qu'est-ce qu'on dit aux 6 millions de Français qui, eux, se retrouvent eh bien à passer au travers des gouttes, d'ailleurs au risque de leur vie, au risque de leur santé, mais aussi en faisant peur, peser leurs décisions sur celles des autres, parce qu'on sait que malheureusement, eh bien, on peut être vacciné et avoir le virus. Jean Castex en est là aussi encore une fois un exemple, mais dans des proportions sanitaires beaucoup moins lourdes. Et ça, c'est tant mieux. Le vaccin protège quand même des formes lourdes de la maladie.
Patrick Kanner, les détracteurs de la vaccination obligatoire disent aussi que c'est très compliqué à contrôler le pass sanitaire. Bon, finalement, on a limité un certain nombre de lieux, on contrôle à l'entrée et voilà. Comment on contrôle la vaccination obligatoire à l'école pour les enfants? On sait que c'est faisable, on le voit avec les vaccins qui existent, puisque une entrée à l'école, elle est soumise à ça. Mais là, comment vous allez faire si vous voulez faire tous les Français?
Déjà, regardons comment on contrôle le pass sanitaire. C'est la moitié des Français qui contrôlent l'autre moitié des Français, réciproquement, suivant les situations. Je suis pas sûr que toutes les personnes qui nous contrôlent soient habilitées. Je ne vous cache pas que il m'arrive, là aussi, je suppose, comme vous l'avez pu constater, que le pass sanitaire n'était pas systématiquement
toujours, oui,
demandé. Voilà, je crois qu'il y a du relâchement.
Et comment on fait la vaccination obligatoire? Comment, dans votre idée, comment on contrôle?
Dans notre, si vous voulez, déjà, énoncer un principe. C'est ne pas laisser d'interstice à toute interprétation qui dirait mais finalement ça ne me concerne pas. Déjà, donc on énonce un principe, la loi dura lex et lex, la loi s'applique à tout le monde. Deuxièmement, dans notre proposition, même si elle relève du domaine réglementaire, on propose bien sûr qu'il y ait une sanction, une contravention de 4e catégorie, c'est-à-dire de 135 euros par des contrôles aléatoires.
Mais et votre proposition, ce serait pour tout le monde ou ce serait pour une seule catégorie de la population?
Ah non, pour tout le monde. Pour toutes les personnes éligibles, c'est-à-dire aujourd'hui, je vous rappelle que les personnes éligibles sont toutes les personnes de 12 voilà.
Mais on pourrait limiter la vaccination obligatoire aux plus de 60 ans, puisque je crois qu'il y a 80 ou 85% des gens qui sont décédés qui avaient plus de 75 ans.
C'est vrai que ce sont les personnes les plus fragiles. Mais si on veut une cohérence pour notamment aboutir, non pas à une immunité collective, on sait malheureusement qu'on n'y arrivera pas avec les variations de ce virus, mais quand même à protéger un maximum de Français, l'idée c'est que toutes les personnes de plus de 12 ans soient vaccinées parce que la loi l'aura décidé. Mais le gouvernement aujourd'hui est en train de tergiverser, de procrastiner, et finalement,
et ça sera
nous
pas cette mode de présidentielle, disons-le.
Ah ben voilà, je crois que vous avez résumé la situation. On est en train de finalement de passer la santé des Français peut-être au travers de préoccupations qui n'ont rien à voir et qui sont purement électorales.
Et
je le regrette parce que le courage d'un président, c'est d'aller jusqu'au bout de sa logique.
Merci beaucoup, monsieur Kanner. Merci. Il est 12h50, on va parler d'Éric Zemmour. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est traité comme les autres candidats à la présidentielle? On va être avec Michel Cotta, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Monsieur Boulot n'a pas fait son travail. Il s'est révélé un procureur pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, il y a eu maldonne. Il y a eu même escroquerie intellectuelle. Monsieur Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères.
C'était hier soir, à peine sorti du plateau du 20h de TF1, Éric Zemmour tire à boulet rouge sur Gilles Boulot qui vient de l'interroger. Dérapage, coup de colère ou vraie tactique de la part du polémiste désormais candidat? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Michel Cotta.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Est-ce que d'abord ça vous a surpris cette sortie d'Éric Zemmour?
Non, j'ai pensé que il allait réagir parce que c'est vrai qu'il n'a pas du tout été interrogé ni sur sa volonté de se présenter ni sur son programme, etc. Donc je m'attendais à ce qu'il sorte en manifestant sa mauvaise humeur, on va dire. Mais je ne pensais pas qu'il la manifesterait si fort.
C'est pas la première fois qu'il critique les médias et les journalistes.
Ah bah ça c'est même ça
fait partie
ça fait partie du jeu. Il y a un populisme net qu'il assume complètement et qui consiste à attaquer d'un côté l'élite politique, hein, quelle qu'elle soit, en faisant quand même en préservant un tout petit peu Marine Le Pen quand même, et puis qui attaque l'élite médiatique. Ça fait partie effectivement de sa stratégie pour le coup. Moi je dis tout, je dis tout ce que vous n'osez pas dire, et par conséquent, je ne respecte personne.
Michel Cotta, c'est toujours difficile parce que voilà. Je voudrais pas qu'on fasse du corporatisme. Ce sont des journalistes qui parlent d'un autre journaliste. Mais la question doit être posée. Est-ce qu'Éric Zemmour est traité hier soir comme un autre candidat à la présidentielle aurait été traité? C'est ça la vraie question. Et les gens nous reprochent de ne pas traiter Éric Zemmour comme un autre candidat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, je pense qu'en effet, l'interview n'était sûrement pas ce qu'attendait Éric Zemmour sur sa déclaration, sur
c'est
ses
pas
premières
ma question.
Intentions. Alors, votre question, c'est...
Est-ce qu'il est traité différemment?
Écoutez, je pense qu'il est traité différemment, mais ou en très bien, hein, ou en étant formidablement soutenu, ce qui a été le cas finalement pendant tout le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre, au fond, d'une certaine façon, c'est la presse qui l'a fait exister. Donc on ne peut pas dire que la presse est contre lui. Hier, j'ai trouvé qu'effectivement, l'interview était sans doute trop cursif pour ce qu'on attendait de la déclaration de candidature de Zemmour. Mais je ne pense pas que ce soit une tentation générale de la presse, et même je pense qu'on est très loin de boycotter Éric Zemmour.
Après, l'idée, Michel Cotta, bien sûr, c'est pas de faire le procès ou pas de cette interview de Gilles Boulot. Là, c'était la première fois qu'il s'exprimait sur un 20h d'une grande chaîne.
Oui, donc on attendait plus, c'est sûr.
Plus,
c'est-à-dire... On attendait davantage. Moi, j'ai été surprise par la brièveté de l'interview.
Des interviews, Michel Cotta, vous en avez mené plein, observé aussi plein. Les hommes politiques, qu'ils soient candidats ou pas, souvent, s'ils ont des messages à faire passer, quelle que soit, j'allais dire, la question qui leur soit posée, ils les font passer, non?
Voilà. C'est ce que je me suis dit. Vous avez tout à fait raison. Je me suis dit que, après tout, puisqu'on est quand on est à l'antenne, hein, on est le maître du direct. Donc, je pense qu'au dernier moment, il allait dire non, mais vous ne m'avez pas interrogé sur mon programme, mais voilà ce que je voulais dire et voilà ce que je tenais à dire sur 4 minutes ou sur 3 minutes, vous voyez. Et ça, il ne l'a pas fait. Mais ça, c'est peut-être, franchement, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être complètement encore dans la peau d'un homme politique, quoi. Et de savoir les petits trucs et les petites faiblesses des journalistes et les petites façons de les contourner.
Question à laquelle il est peut-être plus difficile de répondre. Est-ce que vous pensez que ces séquences le servent au fond? Lorsqu'il attaque les journalistes, lorsqu'il y a le doigt d'honneur, lorsqu'il fait du Trump, est-ce que vous pensez que c'est efficace?
Je pense que pour une partie de la population, oui, c'est efficace, pour ceux qui le soutiennent en tout cas. C'est efficace parce que ça veut dire, au fond, une liberté de ton, une liberté de jugement, un certain populisme, c'est-à-dire moi je suis comme vous et je suis comme tout le monde et je réagis comme tout le monde. Donc je pense que d'une certaine façon, ça sert son électorat. Le problème est que quand on est président de la République, bon, il faut... La formule qu'on répète, il faut rassembler et donc il faut aller au-delà de son public. Et donc je ne suis pas sûr que pour aller au-delà de son public, ce soit efficace.
Je vais vous demander un pronostic parce que vous suivez la vie française depuis quelques années. Votre intuition, il va stagner, il va chuter, il va monter.
C'est long encore, 4 mois et demi.
Oui, c'est très long d'abord. C'est difficile de faire un pronostic maintenant. Moi, je pense qu'il est arrivé à son plafond. C'est-à-dire que je pense qu'il ne, les Républicains ont quand même, d'une certaine façon, réussi leur coup avec leur primaire, qui est une fausse primaire. Et effectivement, Marine Le Pen tient le coup mieux qu'on le pouvait le penser au début, et mieux qu'elle ne l'a fait au début, d'ailleurs.
Merci Michel Cotta. On rappelle que vous avez animé quelques débats et notamment les débats les plus importants de l'entre-deux-tours de la présidentielle.
Ils étaient plus longs que celui-ci.
Ils n'étaient pas le même exercice non plus.
Donc vous avez vu en direct lorsque par exemple François Mitterrand avait dit vous me refaites le coup du passé. Il est temps. Il est dommage contre-temps. Voilà, vous soyez devenu l'homme du passif.
Mais enfin, là, on va quand même avoir droit à certains échanges de ce genre qui nous divertiront dans les 4 mois qui viennent.
Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, au revoir, Michel Cotta. Merci, il est 12h59. RTL Midi.